Les anges sont partout dans la Bible. Dieu ne cesse d'évoquer les purs esprits, les anges. Ils aident Dieu dans son œuvre créatrice, dans son œuvre de présence auprès des hommes, de messager auprès des hommes. Angelus, c'est l'envoyé, le messager. L'intérêt dans les anges est aujourd'hui très répandu, l'intérêt pour les anges est de nos jours assez répandu, parce que comme nous avons perdu la religion, eh bien, nous avons la superstition. Comme nous n'avons plus le catéchisme, on invente sa religion. On ne sait plus ce qui est vrai et de ce qui est faux dans le surnaturel et dans le merveilleux. D'où la multiplication des films merveilleux, avec des effets spéciaux extraordinaires. Vous voyez ? Et l'absence de Dieu, au risque de vous vexer ou de blesser certains d'entre vous, voire même des personnes que vous pouvez connaître. Harry Potter, c'est un monde sans Dieu. C'est un monde de sorciers, c'est-à-dire qui ont contact en permanence avec des esprits, avec des êtres qui ne sont pas humains, mais qui ont des capacités de des monstres, des trolls, des fées, enfin, des vampires, toutes sortes de personnes qui n'existent pas. Par contre, voyez-vous, en effet, ce qui peut exister, ce sont des esprits qui prennent des apparences. Mais il n'y a pas de vampires, il n'y a pas d'êtres humains qui ont un décor qui ne se décompose pas et qui ont besoin de sang. Il n'y a pas, si vous voulez, de toutes ces diverses créatures qui peuplent les contes de fées ou les films contemporains, mais qui sont absolument extraordinaires. Il va y avoir une suite d'Harry Potter là dans un ou deux mois, mais qui est prodigieuse, avec des effets spéciaux sans arrêt, des sorts, des baguettes magiques, des machins, enfin, c'est absolument impressionnant. Tout ce qui est manifestation angélique est soit de la part des bons anges, soit de la part... tout ce qui est manifestation d'esprit peut venir des anges bons, peut venir des âmes des morts, authentiquement. C'est-à-dire que vous avez des morts qui peuvent, étant donné qu'ils ont une âme, et l'âme est un pur esprit, ils peuvent faire une apparence comme les anges. Ils peuvent vous parler, ils peuvent faire vibrer l'air. Ils peuvent vous suggérer des paroles. Ça, c'est les anges, les âmes des morts. Alors qu'ici, ils sont au ciel, quand ils vous apparaissent, c'est assez joli. Oui. S'ils sont au purgatoire, c'est un peu souffrant. Et si ce sont des damnés, c'est vraiment pas drôle. Les revenants, n'est-ce pas, sont en général des damnés qui ont une permission divine pour venir vous tourmenter. Si vous avez des personnes de votre famille qui sont au ciel ou qui sont au purgatoire, leurs apparitions vous troubleront peut-être un peu pour les âmes du purgatoire, mais ensuite vous pousseront à vous convertir et à prier. Et si ce sont des saints, alors là, en général, ils apparaissent lumineux. Et les démons, eux, sont là pour vous suggérer des mauvaises pensées, vous parler à votre imagination, aux portes de votre âme, aux portes de l'intelligence, ou ensuite faire de la fantasmagorie. Voyez, vous avez des chamans qui invoquent véritablement des démons et qui vont disparaître devant tout le monde. Vous avez des moines bouddhistes qui vont faire de la lévitation alors qu'ils invoquent des esprits. Mais des esprits qui veulent qu'il y ait une religion sans Dieu personnel. Les chakras sont des invocations démoniaques. C'est difficile à dire de nos jours, mais je le dis, franchement. Alors, en ce qui concerne la création des anges, les hiérarchies angéliques, vous avez d'abord les séraphins. Ils sont aux côtés du trône de Dieu. Ils sont dans le feu de l'amour de Dieu. Ils sont mentionnés plus particulièrement dans Isaïe chapitre 6. Et ils ont trois paires d'ailes, une vers le bas, une au milieu du corps, enfin du corps de visible pour Isaïe, mais ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'ailes, les anges. Hein. Et deux vers le haut, ce sont des visions qui signifient leur nature. Le feu, l'amour de Dieu, les ailes, l'obéissance à Dieu. Et vous avez eu en France, dans le village de l'île Bouchard, l'apparition de Saint Gabriel, archange. Les trois, quatre jeunes filles qui ont vu la Vierge Marie à l'île Bouchard, en décembre 1947, jusqu'au 8 décembre 1947, il y avait un ange qui était à genoux, devant la Vierge, et qui regardait la Vierge. Et il avait une paire d'ailes absolument incroyables, avec des plumes d'un détail fou. Hein, il s'est amusé comme un petit fou, là, Gabriel. Il s'est fait des ailes mais superbes et qui ondulaient sans arrêt. Comme s'il y avait un petit courant d'air qui passait, ça ondulait, c'était splendide, mais immense, c'était des magnifiques ailes. Et là, à un moment, les petites filles qui étaient là, la Vierge Marie était impressionnante. Donc, à un moment donné, quand même, l'ange qui était là, sans arrêt. Et là, vous avez l'ange qui est comme ça, qui tourne sa fausse tête, mais très bien faite. Hein. Je suis Gabriel. Et il retourne et il vénère la Vierge Marie. Il aura prononcé trois mots, « Je suis Gabriel ». Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un lieu en France où vous êtes certain, parce que l'Église a reconnu l'apparition, que Gabriel était là. C'est joli, hein. À Nazareth aussi, il est venu. Hein. Saint-Michel-Archange, il est apparu au Mont-Tombe et au Mont-Saint-Michel. Les séraphins, donc, eux, ont pour mission d'une connaissance et d'une adoration de Dieu extrêmement intense. Ensuite, vous avez les chérubins. Les chérubins ont des missions plus concrètes, tout en étant très proches de Dieu. C'est un chérubin qui ferme le paradis terrestre, avec une épée flamboyante, pour que Adam et Ève n'y retournent plus et ne prennent pas l'arbre de vie. Vous voyez, ils sont devenus mortels. Et alors, parmi les chérubins, vous avez Lucifer, qui était d'une nature justement très riche d'une connaissance de Dieu, et qui illuminait les autres anges, c'est-à-dire qu'il instruisait les autres anges de ses connaissances. Mais sa nature était tellement profonde qu'il s'est préféré à Dieu. Oui.
Pardon, donc ça veut dire qu'il n'appartenait pas à la première classe des anges.
Non, c'est un chérubin. Je me suis trompé longtemps. D'accord. Ils sont tout autour du trône de Dieu. Ouais. Isaïe, chapitre 37. Psaume 17, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez un autre cœur d'ange qu'on appelle les trônes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font les trônes? C'est Saint Paul qui nous donne ce nom, donc c'est dans la tradition des pharisiens. Dans l'Épître aux Colossiens. Et il dit justement que les trônes et les dominations et les principautés et les puissances ou pouvoir. Quelles sont leurs missions? C'est plus vers le créé et vers la domination de la création. Mais je passe vite, sinon notre ami ne pourra pas parler. La deuxième hiérarchie des cœurs des anges sont plus éloignés de Dieu parce qu'ils sont dans la pratique. Les dominations. Ils sont des seigneurs angéliques. J'en dirai pas plus. Les vertus. Par contre, je peux en dire un peu plus. Les vertus agissent par rapport aux lois de la nature. Ce sont les anges qui sont les vertus qui qui opère aux côtés de Dieu dans la résurrection des morts, dans des guérisons, dans les miracles les plus étonnants. Allez. Vous avez ensuite les puissances, ou pouvoirs, hein, mais ce sont plutôt les puissances, potestates. Et ensuite, vous avez les principautés. C'est la troisième hiérarchie des cœurs d'anges. Je passe vite. Hein. Les principautés, peuvent être des anges qui président à des pays entiers ou à des destinées humaines. Vous voyez. Et les archanges, on considère qu'il n'y en a que 7, on en connaît 3. Michel, Gabriel et Raphaël. Selon la tradition, quand Lucifer a eu l'épreuve des anges, c'est Dieu qui annonce qu'il va créer la matière et qu'il va s'incarner. Il introduit son premier-né dans le monde. Et il dit à ses anges, adorez-le. Mais adorez. Et qu'est-ce que voient les anges ? Un homme. Mais le Verbe du Père unit à une nature humaine. Et Dieu leur dit, adorez-le. Alors ce qui est un grand problème théologique, c'est comment Dieu avait déjà prévu l'incarnation avant même que l'homme ait été créé, quel est l'ordre par rapport au péché originel. Si Dieu a montré aux anges son désir d'incarnation, Dieu, lui, peut savoir qu'en créant la nature humaine, elle va pécher. Mais les théologiens se divisent. Pour eux, l'incarnation, c'est à cause du péché, c'est pour le salut, c'est pour mourir à la place d'Adam et Ève. Donc, il n'y aurait pas eu d'incarnation s'il n'y avait pas eu de péché. Ça, c'est plutôt l'école dominicaine. Et l'école franciscaine considère qu'il y aurait eu une incarnation quand bien même il n'y aurait pas eu de péché. Parce que Dieu aurait voulu faire un chef-d'œuvre de sa création en s'unissant à sa création et matérielle et spirituelle dans l'être humain. Et les anges, eux, qui n'ont pas les nécessités du corps, sont impressionnés de l'amour de Dieu pour la nature humaine. Et donc Lucifer, lui, le rejette. Il dit « Je suis tellement plus parfait qu'un être qui doit apprendre à travers ses 5 sens, qui doit manger, grandir, qui est une larve pour moi, c'est pas possible, c'est un ver de terre. Dieu peut pas s'unir à un ver de terre quand même. Pourquoi il s'unit pas à moi ?» Eh bien, Lucifer a dit « non serviam », je ne servirai pas. Ce à quoi a répondu un archange, Michael, qui en hébreu veut dire « qui est comme Dieu ?»« Quis ut Deus ?» Et Gabriel aurait répondu « Gabriel », d'où leur nom qui leur serait donné, c'est la force de Dieu, l'homme-Dieu, vire l'homme. Voilà. Tout ça, nous le laissons à la tradition orale de la synagogue et de l'Église, et nous allons après les principautés et les archanges, jusqu'aux anges gardiens. Les anges, les anges, eux, sont considérés comme le cœur le plus nombreux, le plus important. Et parmi ces anges, qui sont des myriades de myriades, des milliards de milliards, Dieu prend les anges gardiens. C'est-à-dire que l'être humain a chuté parce que Lucifer, dans sa haine de Dieu et dans sa haine de l'être humain, dit à Ève qu'elle sera divine si elle choisit elle-même le bien et le mal, si elle si elle décrète elle-même ce qui est bon ou ce qui est mauvais, qu'elle prend du fruit de l'arbre du bien et du mal. Dieu lui avait dit, leur avait dit à Adam et Ève, si vous prenez de ce fruit, vous mourrez de mort. Et Lucifer dit, vous ne mourrez pas. Alors qu'est-ce que, quand Lucifer dit ça, il dit que Dieu ment. Non, vous ne mourrez pas, mais si vous prenez de ce fruit, vous serez des dieux. Donc elle a pris de ce fruit, un acte d'indépendance et de toute puissance pour elle, et ça n'a rien fait. Au contraire, elle a senti en elle arriver le désordre et la mort, et la puissance de mort en elle. Et elle était tellement, dans un état de stupéfaction par rapport au fait qu'elle n'était ni puissante ni divine, qu'elle a voulu que Adam tombe avec elle. Elle lui a sans doute répété les mêmes paroles que Lucifer, que ça serait le pouvoir et la puissance. Adam a pris, a voulu ce pouvoir et cette puissance, et lui-même a été envahi par ce vide, et leur esprit s'est troublé. Et tout d'un coup, leur nudité naturelle, qui est tout à fait bonne, est devenue une honte, et ils se sont cachés. Et Dieu qui leur parlait, miraculeusement, dans un miracle sonore, qui parlait à Adam et Ève comme un ami parle à son ami, eh bien, il se cache et dit « Mais qui vous a appris que vous étiez nus ?»« Ah mais c'est pas moi, c'est ma femme. » Et Ève dit « C'est pas moi, c'est le serpent. » Mais voyez-vous, Dieu à ce moment-là punit Ève par la souffrance de l'enfantement et par la domination de l'homme, l'excès de pouvoir de la masculinité. Pour l'homme, c'est la souffrance et la paresse. Et pour Lucifer, c'est le fait qu'il ne pourra arracher des âmes au salut que par la ruse, en rampant toujours et toujours. Alors, de nos jours, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque fois qu'un être est conçu, Dieu demande à un ange de le suivre jusqu'à sa mort. Si nous tuons ce petit être, eh bien, la mission de l'ange gardien sera courte. Mais il fera partie de la chaîne de prière, qui est ce qu'on appelle la recommandation à la miséricorde divine pour les êtres qui meurent sans baptême. Oui. Parce que cette âme créée avec ce petit corps, il n'a pas encore d'acte d'intelligence en action et il ne choisit pas par sa volonté d'aimer ce qu'il ne connaît pas. Alors vous allez me dire, mais alors comment l'âme d'un enfant choisit l'amour? Il est conscient de la grâce qu'il reçoit. Dans le baptême, on a la certitude que Dieu met une lumière, une participation de sa nature divine dans l'âme du baptisé. Même si il ne le veut pas, parce qu'il ne peut pas vouloir, parce qu'il est inconscient. Et donc la personne handicapée mentale ou le bébé n'ont pas une volonté suffisante pour refuser ce don qui est fait par les adultes autour de lui, par les êtres conscients autour de lui, des mérites de Jésus, par le signe de la mort dans la noyade, dans le fait d'être submergé par l'eau, et de la résurrection dans le fait que l'eau cesse de couler et qu'on respire à nouveau. On meurt comme l'agneau de Dieu, le premier-né et le premier de nos frères, Jésus, est mort sur la croix. Et les mérites de ce baptême sont donnés à ce bébé, à cette âme, et la Sainte Trinité vient habiter cette âme et l'éclairer. Alors vous allez me dire, vu les caprices que font les enfants de 2 mois, de 5 mois, d'un an, de 2 ans, il y a vraiment la Sainte Trinité dans cette âme? Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas d'acte de haine, il n'y a pas d'acte de conscient et parfaitement voulu chez l'enfant. L'âge de raison peut arriver vers 5 ans. C'est pas 7 ans, c'est avant en général. Enfin, s'il y en a qui sont vraiment très très pas très comment dire lucides dans leur peut-être que c'est plus tard. Oui. Mais vous avez des êtres des enfants de 5 ans qui pêchent. Oui. Pourquoi? Mais parce que nous avons un esprit qui est très puissant. Alors les anges, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme mission? Ils ont la mission, d'abord, de nous surveiller physiquement. Ils nous voient en permanence. Ils peuvent nous aider physiquement. Ils peuvent intervenir à l'intérieur de notre corps pour nous guérir, sur ordre de Dieu. Si c'est une question de stimulation, de sécrétion interne, par contre, ils ne peuvent pas désintégrer des cellules. Il n'y a que Dieu qui puisse créer des cellules en nous ou les détruire. Quelqu'un qui guérit d'un cancer avec disparition, quelqu'un qui guérit d'une sclérose en plaques avec recréation des articulations, c'est Dieu, c'est pas l'ange. Voyez. Mais qu'un ange puisse vous permettre de mieux voir en agissant sur votre cristallin ou sur votre rétine, ça, c'est miraculeux pour nous, mais c'est un prodige. Ça vient des anges. Les démons, eux, ne peuvent rien faire que de vous pousser, que de vous tuer. Ils peuvent vous casser le cou, ils peuvent vous arrêter votre cœur, mais uniquement avec la permission divine. Et en général, avec des grands pécheurs. Voyez, ils peuvent avoir la permission. Si c'est pas un ange qui le fait, un démon peut très bien tuer quelqu'un, mais uniquement par permission divine, parce que les esprits ne peuvent intervenir dans la vie humaine que par permission divine. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent par rapport à notre intelligence et nos pensées? Eh bien, ils peuvent passer par notre cerveau, par la mémoire et par l'imagination, pour susciter les mêmes choses que suscitent les photons sur votre rétine. Donc c'est vraiment pas compliqué pour eux. Ils peuvent, dans le nerf optique, provoquer des images qui ne sont pas réelles. Vous voyez? Ils peuvent aussi vous parler, mais par justement votre imagination et par ce qui provoque chez vous l'ouïe. Mais ils ne peuvent pas vous imposer un choix. Ils peuvent vous suggérer des pensées parce qu'ils passent par par votre corps, mais ils ne peuvent pas entrer dans votre âme. Ils ne peuvent pas entrer dans votre volonté, ils ne peuvent pas vous faire vouloir quelque chose, ils ne peuvent pas vous faire comprendre quelque chose que vous ne voulez pas comprendre. Mais ils peuvent vous illuminer par suggestion, par imagination, et vous faire saisir toutes les mathématiques. C'est pratique, c'est très pratique, mais bon, en général, ils ne le font pas. Et voilà, oui. Et les anges ne le font pas non plus. Par contre, Saint Albert le Grand, qui n'avait très très peu d'intelligence spéculative et très très peu de mémoire, n'arrivait pas dans ses études. Il voulait quitter le monastère. Et un ange l'arrête, il lui dit, tu auras tout ce qu'il faut jusqu'au moment de ta mort. Il retourne et là, il a une mémoire prodigieuse. Il apprend quasiment par cœur la Sainte Écriture, il sera le professeur de Saint Thomas d'Aquin. Et quelques temps avant sa mort, il oublie tout. Donc il y avait une action angélique, une action divine ou angélique, dans la mémoire prodigieuse de Saint Albert le Grand. Pouf, il a tout oublié avant de mourir, il était tout heureux, voyez. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Alors, les anges, eh bien, vous avez des récits angéliques. Est-ce que vous avez, par exemple, cette femme qui avait traversé un bois dans une ville, un parc, et un assassin était passé devant elle, n'avait rien fait, et avait agressé une autre personne. Appel à témoin, elle dit, j'ai vu cet homme, en effet, dans le parc, donc ça faisait un témoignage contre lui. Et à un moment donné, il y a eu une confrontation, peut-être avec une vitre teintée ou autre, mais il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas agressé, moi? Et là, il lui dit, mais vous étiez accompagné. Vous aviez un homme avec vous. Vous aviez un... Oui. Donc, son ange gardien a pris de la matière, a fait quelque chose de bien consistant, et l'autre, il ne l'a pas agressé. Et des récits angéliques, vous avez le Padre Pio qui, lui, demandait à son ange gardien d'aller voir l'ange gardien d'une autre personne, et il plaisantait en disant, mais vous vous rendez compte, les anges sont présents là où ils pensent. Donc, si un ange agit à Paris, et s'il veut agir à Tokyo, il suffit qu'il le pense pour être à Tokyo. Vous voyez ? L'esprit ne se déplace pas. Il n'a pas de matière. L'esprit agit là où il est. Et donc, combien de fois le Padre Pio a envoyé des messages par les anges gardiens? Ce qui fait que l'ange gardien d'une personne lui transmettait un message du Padre Pio. Parce que l'âme du Padre Pio restait dans son corps. Le bon Dieu permettait la bilocation. Qu'est-ce que c'est la bilocation? C'est-à-dire que le corps est maintenu en vie alors qu'il n'a plus l'âme humaine. Donc ça, c'est un miracle que seul le bon Dieu peut faire. Il maintient en vie toutes les cellules du corps. Et vous avez l'âme humaine qui sort du corps et qui va avoir une apparence humaine ailleurs. Vous avez comme ça un prêtre progressiste des années 1910, qui faisait des livres, des journaux, en disant « oui, il faut la révolution, il faut le socialisme et tout ça ». Et Saint Pidis lui apparaît dans sa chambre. Il était en train d'écrire et il voit le pape. Et Saint Pidis lui dit « arrête, réfléchis, tout ça c'est du... comment dire, c'est... c'est de la démagogie, c'est faux. La vie humaine, elle demandera toujours des efforts. On peut pas. Des riches, il y en aura toujours. Des pauvres, il y en aura toujours. C'est moi qui fais un argumentaire. Il lui a dit d'arrêter. Il était stupéfait. Il est allé à Rome. Il a demandé une audience au pape. Il l'a obtenue. Et quand il entre dans la salle d'audience, ou dans le bureau du pape, je crois que c'était plus réservé, puisqu'il avait une mauvaise réputation de prêtre révolutionnaire ou de prêtre libéral, et Saint Pidis lui dit, vous savez déjà tout. Donc Saint Pidis était conscient lorsqu'il a fait cette bilocation. De la même façon, vous avez le Padre Pio, qui apparaît aux forteresses volantes américaines, qui passe pour bombarder, mais près de Saint Giovanni Rotondo, les s'ouvrent toujours et tombent dans la forêt. Et vous avez un moine volant, comme ça, en bure, marron, qui est dans le ciel, devant les forteresses volantes. Les pilotes disent, on ne peut pas avancer, enfin, on se tourne. Le commandant de la formation dit, bon, c'est pas possible. Il prend un des avions et il constate. Après la guerre, ils vont à Saint Giovanni Rotondo, ils se retrouvent nez à nez avec le Padre Pio, ils veulent le rencontrer, et le Padre Pio les regarde et dit « Et pourquoi vous vouliez nous tuer ?» Donc voyez-vous, on est en plein surnaturel, voyez, et là c'est une âme qui, comme un ange, va prendre un corps d'emprunt. Mais les anges, eux, alors il y a des... comment dire, de nos jours, il faut faire très attention, il y a beaucoup de livres sur des interventions angéliques. Et actuellement, vous sachez que à la fin des temps, il y aura beaucoup de miracles. Miracles parce que venant de Dieu, et avec les anges comme en service pour des petits miracles, et prodiges démoniaques, une quantité. Et vous savez, vous avez des personnes qui ont imposé les mains à des malades, dont des personnes qui étaient en fauteuil roulant, elles se sont levées. Et quelques mois plus tard, elles se sont rassises dans le fauteuil roulant. Parce que c'était angélique, c'était démoniaque. Un démon peut vous lever un paralytique. Mais il agit sur tous les points et il le fait marcher comme un exosquelette mécanique comme il en existe actuellement. Sans problème. Il peut même vous faire bouger un mort ou parler à un mort, un cadavre. voyez, qui vient de mourir. Parce que s'il a la rigidité cadavérique, l'ange, enfin le démon doit briser tous les tissus rigidifiés, donc ça doit être très drôle. Vous voyez, c'est comme ce qu'on appelle les golems, ou ce qu'on appelle comment dire, dans le vaudou, vous avez les zombies. Les zombies, en général, ce sont des personnes droguées, ce ne sont pas des morts. Hein. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé, et maintenant, vous allez avoir, l'exposé de texte sur l'ange. Oui. Voilà.